Bonjour à tous, ici Phil pour un avis des moutons, cette fois-ci pas enregistré à l'arrache depuis son téléphone portable, mais enregistré avec du vrai matériel. Donc, de quoi j'ai envie de vous parler aujourd'hui? J'ai envie de faire une petite réflexion sur l'état du podcast à l'heure actuelle, ce que je déplore et ce dont je suis content. On va commencer par ce dont je suis content. Alors, ce dont je suis content à l'heure actuelle, c'est que il y a beaucoup de mouvements autour du podcast, de la part des professionnels, de la part des amateurs, de la part des semi-professionnels, alors ceux qui viennent du monde de l'amateur et qui souhaitent se professionnaliser, ceux qui sont déjà professionnels mais qui aimeraient avoir un peu plus de liberté. Donc là, on est dans une vague qui est plutôt sympathique. Voilà, je dis bien une vague parce que comme il y en a eu beaucoup avant, c'est très possible que ça n'en soit qu'une nouvelle et que ça soit pas la fameuse explosion du podcast qu'on attend depuis un bon moment maintenant, plus de 10 ans on va dire. Par contre, il y a une tendance que j'aime un peu moins, qui est loin d'être nouvelle, hein, qui est loin d'être nouvelle absolument, mais comme il y a un nouvel acteur sur le marché, on va le citer directement, c'est Ocha. J'ai rien contre eux, honnêtement, dès le début je vais le dire. Leur offre, c'est pour la première fois une offre qui est relativement bonne, qui est pas trop chère, l'ergonomie est pas trop dégueulasse. Je connais pas exactement leur intention, mais pour communiquer avec eux, les choses se passent bien. Ça a l'air d'être des bons gars, mais ça se trouve dans l'équipe, il y a aussi la gente féminine, donc ça a l'air d'être des humains tout à fait convenables. Mais la chose que je déplore, c'est que on va aller, et je sens cette tendance venir, on va aller vers de plus en plus une YouTubeisation du podcast. Alors attention, je ne parle pas de balance ton YouTubeur ou ce genre de choses. Je parle du fait que le podcast, à mon sens, et c'est là où c'est peut-être une réflexion de vieux con, c'est prendre le contrôle de sa communication, prendre le contrôle de son média. Et quand je dis prendre le contrôle, c'est vraiment être capable de le gérer de A à Z. Là, je suis capable de parler dans mon micro, je suis capable d'avoir mon propre matériel, je suis capable de créer mon propre contenu. Ça, c'est une chose, c'est une composante de prendre le contrôle du média. Et ça, c'est une composante qui ne change pas quand on fait appel à des services externes. Il y a une deuxième tendance, il y a une deuxième façon de prendre le contrôle de son podcast, c'est celui d'en maîtriser la technique et d'en maîtriser complètement l'hébergement. Alors, quand je parle d'en maîtriser l'hébergement, je parle de maîtriser l'hébergement de son flux RSS ainsi que de ses fichiers, et c'est les deux combinés. Cette tendance, c'est un peu aussi de notre faute, hein, je veux dire, on l'a poussé aussi. Normalement, PodCloud était censé être un créateur de flux RSS pour débutants, personne qui n'était pas capable d'avoir forcément la technicité ou n'avait pas envie d'être confronté de suite à la technicité de créer un flux RSS. Malheureusement, c'est devenu la plateforme sur laquelle il faut être, mais où il y en a beaucoup qui considèrent qu'il faut être, et celle aussi où les débutants vont commencer, mais ne vont pas ensuite derrière prendre le contrôle de leur flux. Et là cette fois-ci, c'est là où je dis qu'il y a Ocha qui rentre dans l'équation, mais c'est pas les seuls. SoundCloud était là avant, et c'est là aussi où je salue le travail d'Ocha, c'est que enfin peut-être qu'on va avoir des gens qui n'utilisent plus SoundCloud pour faire du podcast. Ça serait pas mal. En plus, l'offre est deux fois moins chère que celle de SoundCloud, donc en soi, j'espère que ça en tirera de SoundCloud vers eux, pour ceux qui ont vraiment pas envie de s'embêter et qui ont juste envie de prendre leur fichier, l'envoyer sur Internet, et puis pouf, c'est fait. Mais voilà, justement, cette démarche de je prends mon flux, je prends mon média, je l'envoie sur Internet, et puis pouf, c'est fait, je me pose pas la question de comment la cuisine est faite derrière, pour moi, ça va à l'encontre, en fait, d'une partie du podcast amateur. Ça va à l'encontre du fait de prendre le contrôle de son média. On peut pas prendre le contrôle de son média si on n'en maîtrise pas la technicité. Et en quoi c'est important, vous allez me dire? Eh bien, tout simplement parce que le jour où un des services ferme, que ça soit PodCloud, que ça soit Ocha, que ça soit SoundCloud, que ça soit Libsyn, que ça soit DJPod, que je vais pas tous les citer, certains vont se retrouver à arrêter de faire du podcast ou vont devoir aller vers un autre hébergeur et vont répéter en fait la même erreur une deuxième fois en faisant appel à ces services externes, y compris les nôtres, hein, là, clairement, ou y compris le nôtre quand je parle de PodCloud. C'est à mon sens ne pas aller assez loin dans la démarche. Et pour moi, c'est là où finalement je me demande si on ne devient pas un média comme un autre, un média où il y a deux mondes, ceux des barbus d'un côté qui sont capables de faire des radios pirates, et ceux de l'autre qui simplement diffusent comme on pourrait diffuser sur YouTube, tout simplement. Et je trouve ça dommage pour plein de raisons, et la première c'est probablement une question d'habitude. La deuxième, c'est une question de philosophie, et encore une fois, ça n'engage que moi. Mais voilà, je voulais partager avec vous cet élément de réflexion autour de l'importance de maîtriser son média et de ne pas reproduire les erreurs que l'on trouve déjà sur certaines autres plateformes, sur certains autres formats. Et vous dire que voilà, il est très possible que vous me voyez soit avec le compte de PodCloud, soit moi-même tweeter en disant prenez un hébergement parce que un hébergement, vous voyez, finalement, c'est pas très très cher. Alors évidemment, un hébergement, c'est pas très très cher parce que y a pas tout un service derrière, y a pas des, enfin oui, il y a le service que propose l'hébergement, mais par rapport à des solutions toutes faites comme Ocha, Libsyn, comme SoundCloud, il va y avoir, il y a moins de gens à payer pour faire une solution qui est dédiée au podcast. Donc je comprends qu'effectivement pour 3,89€ on ait 100 gigas, j'ai pas su, c'est plus, c'est 3,89€, je dis ça au hasard, mais moins de 4€, on puisse avoir 100 gigas et que un flux chez SoundCloud ça coûte 10 balles, non là c'est vraiment de l'arnaque, mais que je sais pas, sur Libsyn par exemple, je crois que c'est de l'ordre de 6$ ou quelque chose comme ça, avec des limites à l'upload, hein, je parle du truc de base. Je comprends, parce que derrière il y a du service en plus, ce service on doit le payer, évidemment c'est pas juste du simple stockage, il y a toute une équipe à payer derrière, toute une maintenance d'un service à payer, et ça je le comprends tout à fait. Mais c'est pour ça que vous me verrez tweeter donc prenez un hébergement, parce que bon certes il y a le côté prix, et je viens d'expliquer pourquoi le côté prix n'est pas un argument, mais il y a le côté aussi cet hébergement c'est votre hébergement, c'est à vous, c'est vous qui le louez, c'est à votre nom. Personne ne peut vous dire ce que vous avez le droit ou non de faire avec, c'est-à-dire si un jour vous décidez de faire un podcast sur lequel vous diffusez des vidéos, je sais qu'il y a certaines plateformes qui vous empêchent de le faire, là vous pouvez le faire tout à fait, et je rappelle qu'un podcast avec de la vidéo c'est tout à fait possible, et c'est pas forcément du Norman, hein, c'est simplement des vidéos qui sont données dans un flux RSS. Ensuite, si un jour vous avez l'intention de créer votre site internet, ça tombe bien, vous avez déjà un hébergement pour créer votre site internet. Si un jour vous souhaitez vous faire un petit cloud personnel, vous avez la possibilité de vous faire un petit cloud personnel. Et vous voyez la démarche que je veux, hein, que je veux que les gens aient derrière, et là c'est un vœu pieux, hein, très honnêtement, c'est que les gens finissent par s'approprier non seulement le podcast, mais aussi une partie du web. C'est une philosophie à grande échelle, clairement, je sais qu'il y en a plein qui n'ont pas envie de s'embêter avec ça, qui lorsqu'ils veulent s'exprimer sur internet le font via Facebook, via Twitter, je le fais aussi. Il y en a qui veulent s'exprimer via Medium, via je ne sais pas trop quelle autre plateforme. OK, pas de souci, il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça. Le jour où ces services ferment, vous risquez de perdre des données, donc pensez à faire des sauvegardes, encore une fois. Je dis encore une fois parce que j'ai l'impression de me répéter sur les sauvegardes, mais admettons. Voilà, c'est à mon sens une démarche que à l'heure actuelle plus personne n'a, et qui justement rend le web de plus en plus monopolitique, je sais pas si ça se dit, enfin bref, avec des grands monopoles qui peuvent verrouiller la liberté d'expression. Prenons par exemple YouTube et sa monétisation, où vous n'auriez pas trop le problème si vous aviez un quelconque autre moyen de communication que YouTube pour diffuser votre contenu, et que vous ayez un autre moyen de gagner de l'argent que celui d'avoir des pubs avant. Alors, je sais que du coup, une grande partie du YouTube game est en train de switcher vers une solution où justement il y a YouTube pour diffuser d'un côté, et ensuite Patreon et Tipeee pour pouvoir recevoir de l'argent de l'autre. Et vous voyez bien que, au final, une seule plateforme qui fait tout, ce n'est pas une bonne solution. Ensuite, vous me verrez souvent, très souvent, m'énerver contre les offres illimitées. Et ça, j'aimerais bien expliquer pourquoi les offres illimitées me posent problème. Les offres illimitées me posent problème d'une manière générale, que ça soit un forfait de téléphone, ou que ça soit tout simplement un hébergement, un stockage, prenons l'offre illimitée de SoundCloud. L'offre illimitée de SoundCloud me pose problème parce que, en fait, on se retrouve à payer pour de la tranquillité d'esprit. Alors, je sais que c'est un peu le principe d'une assurance. C'est-à-dire qu'on prend une assurance pour être tranquille, en cas de pépin, on est pris en charge, on peut être rapatrié, voilà, on paye pour de la tranquillité d'esprit. Je suis assuré en tout risque et probablement surassuré, donc je peux comprendre cette façon de fonctionner, il n'y a pas de problème. Simplement, lorsqu'on parle de stockage, et surtout lorsqu'on parle de stockage de fichiers audio, clairement, on est sur un coût qui n'est pas énorme. Alors, quand j'avais fait le petit calcul rapidement de ce que ça donnait pour 100 gigas, pour une émission qui est mensuelle, qui fait 3 heures, on en a quand même pour une trentaine d'années d'émission. Alors, pas une trentaine d'années d'audio, hein, mais une trentaine d'années de vie de l'émission. Avant d'atteindre les 100 gigas. C'est quand même monumental. Hein. Alors, l'autre problème que j'ai sur ces offres illimitées, c'est qu'en général, et toujours encore une fois, je donne l'exemple de SoundCloud, on est bloqué à une offre illimitée à 10€ par mois pour un seul flux RSS. Et ça, le problème de faire ça, c'est que ça donne aussi aux podcasteurs une volonté de rester sur un flux, rester sur une émission, et ça c'est aussi, à mon sens, une perte. Pourquoi c'est une perte alors? Je vais donner un bon exemple, un grand ami à moi, Péremptoire, est un joyeux testeur de concept. Donc, prenons son cas, non pas comme une généralité, mais comme un bon exemple de quand ça ne marche pas. Il y a deux solutions. Solution 1, il décide donc de se forcer à rester sur un concept, et il est malheureux. Solution 2, son flux ne ressemble absolument à rien, parce que il se retrouve à avoir des émissions qui n'ont aucun rapport entre elles, parce que justement, il a testé des concepts qui n'ont comme seul dénominateur commun que le fait que ça soit fait par péremptoire. Et en un sens, ça, c'est problématique pour les auditeurs aussi, qui se retrouvent abonnés à un flux qui n'a rien à voir, qui ne respecte pas le contrat qu'il y avait originellement entre le podcasteur et son auditoire. Voilà, encore une fois, c'est ma pensée, c'est ma façon de voir les choses. Et encore une fois, là, pour prendre le cas, parce que je sais pas pourquoi les gens sont persuadés que nous on a un problème avec Ocha, alors que pas du tout, donc j'en profite aussi pour expliquer que là j'ai pas un problème. 5€ pour de l'offre illimitée, c'est pas très cher. Voilà, c'est pas énorme. De toute façon, même quand vous prenez un truc à 100 gigas, au final, vous payez un peu pour de la tranquillité d'esprit. Vous auriez pu prendre un truc à 1 giga et puis augmenter ensuite quand vous en avez besoin. Ça vous aurait coûté beaucoup moins cher par mois, et avant d'atteindre 1 giga d'audio, il peut se passer un petit bout de temps. Ça dépend de à quel point vous diffusez des émissions et en quelle qualité et si vous en servez pour autre chose. Mais voilà, je comprends tout à fait le concept de vouloir être tranquille, et voilà, sur leur offre, j'ai pas grand-chose de négatif à donner, si ce n'est derrière une espèce de philosophie que j'ai vis-à-vis du podcast, et qui est la philosophie de l'association, dont je suis le président, qui donc, du coup, c'est pour ça qu'on est un peu d'accord entre le président de l'association et moi, étant donné qu'on est la même personne. Mais voilà, donc voilà, je voulais vous partager un petit peu donc cette pensée, ces lignes directrices. N'hésitez pas à faire une réponse à cet épisode, certes un peu long, mais aussi un peu dense sur l'ensemble de cette réflexion. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, parce que chez moi, il est tard, et si vous écoutez ça le matin, eh bien, une bonne matinée. Si vous écoutez ça à midi, bon appétit. Et en attendant, ben...